Studio Tamani, voici nos informations en français.
Et c'est avec Mariam Maïga la présentation. Nouhoum Djiri assure la technique. Les phases locales des Assises nationales de la Refondation démarrent ce samedi 11 décembre sur l'ensemble du territoire. Des élus locaux regrettent que les préparatifs de ces rencontres n'aient toujours pas commencé. Lancement ce lundi de la 17e édition de la Semaine de la sécurité routière. Durant une semaine, des campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route seront véhiculées. Tout comme les femmes, les hommes sont aussi victimes de violences conjugales. Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la rédaction fait un zoom aujourd'hui sur le cas des hommes battus dans leur foyer. Monsieur et dames, bonjour et bienvenue. La phase locale des Assises nationales de la Refondation va débuter ce samedi 11 décembre sur l'ensemble du territoire. La déclaration a été faite la semaine dernière par le panel des hautes personnalités des Assises nationales pour la Refondation. Pourtant, si dans certaines communes du nord et du centre du pays, les populations disent attendre impatiemment le début de ces concertations, dans d'autres communes au sud du pays, les élus regrettent que les préparatifs de ces rencontres n'aient toujours pas commencé. Où en sommes-nous avec l'organisation des assises au niveau local? Le point avec Intala Akbilal.
À Tombouctou, les maires de la commune reconnaissent que les efforts sont en cours pour faire de ces assises tant attendues une réussite. Cependant, l'élu estime que la sécurité est la principale attente des Tomboucticiens. Aboubakar El Hadji Cissé, maire de la commune de Tombouctou.
En train de faire en sorte que tout soit mis en place pour que le 11, que ça soit une réussite au niveau de la ville de Tombouctou. Nous attendons que ces assises, la résolution de tous les problèmes, surtout les problèmes sécuritaires.
Même réponse à Djani, où le premier adjoint au maire de la commune soutient que tout est fait prêt pour le démarrage de ces concertations. Il affirme également que le rétablissement de la sécurité reste la priorité des priorités pour leur population. Amadou Ba, maire adjoint de la commune de Djani.
Nous avons déjà choisi ceux-là qui doivent aller pour participer à ces assises nationales. Les attentes, c'est la sécurité.
À Saint-Tchébougou, dans le cercle de Fana, région de Djouila, les élus communaux regrettent qu'ils n'ont pas été officiellement saisis par les autorités concernant la tenue de ces assises à 4 jours du délai prévu pour leur démarrage. Ils soulignent que les préparatifs des ANR sont au point mort. Sédou Kone, maire de la commune de Saint-Tchébougou.
Nous n'avons pas reçu l'espérance et puis nous n'avons pas été informés qui est-ce qu'il faut inviter pour faire la rencontre. Quatre présent, quand même, nous sommes dans l'attente et nous savons qu'au niveau national, ça bouge, mais nous, à notre niveau, on n'a pas encore commencé.
Les assises nationales de la Refondation doivent commencer par les phases communales et régionales. Les discussions et recommandations issues de ces débats doivent être remontées pour la phase nationale prévue à partir du 26 décembre. À ce stade, plusieurs partis politiques et regroupements annoncent qu'ils vont boycotter ces assises.
Un sujet signé Intala Akbilal, toujours sur le même sujet. Ces concertations se tiennent donc après plusieurs reports. À Baflabé, par exemple, dans la région de Kay, les attentes de la population sont énormes. Si certains habitants souhaitent que les sujets liés à l'esclavage par ascendance soient au cœur des discussions, les organisations féminines veulent que leurs préoccupations soient prises en compte. Oumar Weigalo.
Pour Kandé Doukouré, maire de la commune urbaine de Bafoulabé, ces assises nationales sont salutaires. Il souhaite que tous les sujets concernant la vie de la nation soient débattus, notamment les sujets de l'esclavage par ascendance dans le cercle de Bafoulabé.
Si elle n'était pas prévue, il fallait les prévoir.
Vous avez sûrement constaté que Bafoulabé souffre des problèmes d'esclavage. Je crois que les assises vont nous permettre de débattre de tout cela.
Les organisations des femmes de Bafoulabé exhortent leur implication. Selon Madame Sako Moussou Makansa Kaliba, présidente de la coordination des associations et ONG féminines de Bafoulabé, les préoccupations des femmes doivent être prises en compte.
Nos attentes, c'est de pouvoir d'abord participer afin de comprendre et de pouvoir donner nos idées par rapport à tout ce qui sera dit. Et après, on verra.
Djarafa Sambou Sissoko, enseignant à la retraite, affirme que ces assises sont les seuls moyens pour faire sortir les pays de la crise.
Vu la situation du pays, chacun de nous, il va falloir qu'on se rencontre et qu'on se tienne un langage qui puisse aider ce pays-là à sortir du gouffre.
Rappelons que ces assises nationales sur la refondation de l'État ont été reportées à plusieurs reprises.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant et en partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. 8h passées de 4 minutes. Dans un communiqué, le gouvernement suspend l'exportation de céréales, du coton grain et de tourteaux de coton. Cette décision prise hier vise à sécuriser le ravitaillement des marchés nationaux en produits issus de l'agriculture. Dans le document, le gouvernement demande aux directions du commerce et de la concurrence de veiller au respect de cette décision. Direction Badjangara, où les populations ont déclenché hier une désobéissance civile dans toute la région. Ce mouvement intervient suite à l'attaque contre les forains de Songo vendredi dernier. Cette attaque a coûté la vie à 31 civils, indique un communiqué officiel. C'est une manière pour nous de montrer notre mécontentement face à cette situation d'insécurité et nous comptons aller jusqu'au bout, a déclaré le deuxième adjoint au maire de Badjangara. Moussa Tembélé regrette que toutes les actions entreprises jusque-là soient inefficaces. Il est au micro de notre correspondant Mamoudou Bokoum de Mopti.
C'est notre consternation totale qui nous a poussé à cette désobéissance civile. Parce qu'on s'est dit trop, c'est trop. Parce que nous avons terminé toutes les cartouches. Les voies et recours que nous avons eu à faire, par-ci, par-là, commencer par des marches, faire encore des pétitions, faire des écrits. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons tout fait. Rien n'a changé. Voilà ce qui nous a poussé vraiment à aller à l'idée d'une désobéissance civile. Nous avons demandé à ce qu'on ferme tous les édifices public et parapublic, même les ONG de fermer, pour montrer notre mécontentement pour que vraiment l'État nous écoute. Les services qui ne sont pas concernés vraiment par cette désobéissance civile, il y a d'abord la santé, le commerce, également le transport.
Sécurité routière, la 17e édition de la semaine de la sécurité routière a été lancée ce lundi au Mali. Du 6 au 12 décembre prochain, plusieurs activités sont prévues, notamment la sensibilisation des citoyens sur la sécurité du piéton dans la circulation routière. Selon l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, toutes les couches seront impliquées pour une meilleure sensibilisation. Cette 17e édition est organisée par l'ANASER en partenariat avec le ministère des Infrastructures et des Transports. Elisabeth Wallet Mohamed était sur place.
C'est sous le thème « Sécurité du piéton dans la circulation routière » que cette édition a été placée. Selon les dernières statistiques des accidents de la route enregistrés en 2020, il y a eu 1730 blessés et 67 tués. Madame Koulibaly Fatoumata est une victime. Elle nous raconte son vécu.
Cet incident est survenu lorsque je quittais Djilibougou à moto sur le nouveau goudron qui mène de Koulikoro à Bamako. J'ai été la première victime d'accident sur cette route. Et cela me fait aujourd'hui 25 ans, jour pour jour, dans cet état-là, marchant avec des béquilles. J'ai subi 5 opérations chirurgicales à Bamako et ailleurs, mais aucun résultat. Je n'en peux plus.
Pour la directrice de l'ANASER, il est important de rappeler aux usagers le respect du code de la route pour les préserver de tout danger imminent. Madame Doumbia Djadjissako, directrice de l'ANASER.
La route appartient aussi aux piétons. Nous serons dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la traversée des routes. Des prêches se feront aussi dans les mosquées, dans les églises et évidemment nous allons aussi dans les carrefours.
Le ministre des Infrastructures et des Transports, quant à lui, lance un appel à l'ensemble des autorités politiques, administratives et religieuses en vue de contribuer à la réussite de cette campagne de sensibilisation.
Un reportage de Elisabeth Wallet Mohamed Sissi. Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre se poursuivent. Nous faisons un zoom aujourd'hui sur le cas des hommes battus dans leur foyer. Dans nos sociétés, les violences faites aux hommes sont fréquentes et le bilan s'alourdit suivant les années. Dans beaucoup de foyers, les hommes sont tabassés, torturés et méprisés par leurs conjointes. Cependant, ils restent en silence pour garder une bonne image de leur foyer. Une situation qui déshonore nos coutumes et mœurs pour des traditionnalistes. Plus de détails avec Lalecha Wallet Infa.
Pour ces usagers, les hommes sont aussi victimes au même titre que certaines femmes de violences conjugales. Ils estiment qu'ils subissent des traumatismes de la part de leurs conjointes.
On peut considérer même que les hommes subissent les violences psychologiques. Moi, à mon humble avis, les hommes sont plus violentés que les femmes.
Tout homme est victime de ça, mais les hommes, c'est-il allez-y.
Pour ne pas citer de nom, je vais vous dire que je connais un homme qui a même peur de rentrer chez lui parce que tout ce qu'il dit, il est tabassé dans sa propre maison.
Les cas de violences faites aux hommes... j'en ai vu plusieurs, quand ils ont des difficultés surtout financières.
Les responsables des associations de lutte contre les VBG témoignent des cas de violences faites aux hommes. Selon eux, le taux de ces violences augmente suivant les années. Salif Senou, coordinateur de l'association Femmes Bâties, affirme qu'ils ont enregistré plus de 10 cas cette année.
En 2016, un homme est venu, sa femme a frappé dans sa tête et un homme aussi a été agressé par les couteaux par sa femme. En 2018, on a traité les cas d'un cadre victime d'une agression par couteau par sa femme. Par an, on peut à peu près avoir une dizaine d'hommes. Et un homme est augmenté dans ce dernier temps.
Il faut savoir que des femmes comme des hommes souffrent dans le silence des violences basées sur le genre au Mali.
Parlons de l'évolution de la maladie à coronavirus. À la date du lundi 6 décembre, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 58 nouveaux cas positifs, 23 patients guéris, 0 décès. La situation cumulée est donc de 17 971 cas positifs pour 15 321 patients guéris et 618 décès. À présent, place à la rubrique Actu Covid présentée par Aïssata Diarra.
Une campagne d'information et de sensibilisation sur la COVID-19 a démarré lundi 29 novembre 2021 à Yanfolila. C'est une initiative du comité de pilotage de la crise sanitaire dans le sac de Yanfolila. Selon les responsables du comité, les zones ciblées sont les aires de santé, les sites d'orpaillage, les lieux de culte et les écoles. Awa Berthe nous en dit plus.
L'objectif de ces 3 mois de campagne est d'inciter la population à se faire vacciner. Dr Abdrahman Traoré, point focal COVID-19 au district sanitaire de Yanfolila.
Vu les lenteurs constatées par rapport à la vaccination et l'augmentation du nombre de cas de COVID au Mali, c'est ce qui nous a poussé d'organiser avec les services de développement social, la préfecture et l'ensemble des membres du comité de pilotage à organiser cette journée d'information.
L'habitant de Yanfolila estime que leur réticence à se faire vaccinés découle des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.
À travers des réseaux sociaux, les gens sont effrayés par rapport à ces vaccinations.
C'est par manque de confiance. Et puis, les gens parlent des effets secondaires post-vaccination.
Disons la vérité, moi, 15 ans, j'avais pas compris. Je pensais que la vaccination amène d'autres maladies. Mais maintenant, j'ai compris que c'est une bonne chose.
Les initiateurs de cette campagne demandent l'accompagnement de la population pour la réussite des activités.
À présent, place à la question d'auditeur. La réponse vous sera donnée par Dr Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, point focal COVID-19 à l'hôpital du Mali.
Faut-il porter un masque quand on fait du sport?
On n'est pas obligé, sauf si les conditions du sport nous l'exigent. C'est-à-dire vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de porter le masque, ce n'est même pas nécessaire. Le sport cherche quelque chose et les cellules ont besoin d'une bonne oxygénation. Et le masque va vous priver de cette bonne oxygénation. Sauf si vous êtes contraint de porter le masque parce que vous rentrez dans un sport où il y a le contact physique, il y a le rapprochement avec d'autres personnes dont les statuts sont les mêmes, alors il faudrait porter votre masque.
Ainsi prend fin ce numéro. Merci pour votre confiance. Respectez les mesures barrières pour vous protéger de la COVID-19.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Bafoulabé où le lycée public sera équipé d'un château d'eau et d'une installation solaire. Les travaux ont démarré dimanche dernier. L'infrastructure est financée par le gouvernement de transition. L'initiative est saluée par les élèves, l'administration et les autorités locales. Terminons par Kuchala où la première édition du festival culturel Weiko a pris fin ce week-end à Mpensoba. Les activités ont duré 3 jours. Elles ont permis de faire la lumière sur certaines valeurs culturelles de la localité. Le thème retenu pour cette édition est « Culture et réconciliation en milieu Mianka ». C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Nous vous direz assurer la technique. Ne vous décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Aïssata Diarra. Le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH/SIDA. Les personnes atteintes de la maladie prennent tous les jours des médicaments. Une situation difficile qui demande du courage,
témoignent certains d'entre eux. Le quotidien de ces personnes, comment surmonte-t-elle cette épreuve? Notre reporter Aïssata Diarra est allé à la rencontre d'une personne porteuse du virus.
Cette personne qui a voulu garder l'anonymat prend des antirétroviraux depuis 2005. Lorsque j'ai découvert que j'étais séropositive, j'ai commencé le traitement. Pendant des années, je prenais 6 à 7 comprimés par jour, affirme notre interlocuteur.
Avant, on peut prendre 6 comprimés à 7 comprimés par jour. Bon, au début, c'était pas facile. Et le médicament que tu prends, ça vit. Donc, tu dois t'habituer à ça. Il y a d'autres qui commencent à prendre le médicament une année, 2 ans, 3 ans. Ils disent que vraiment, ils en ont marre. Parce que moi-même, je suis dans une unité de prise en charge. On a des patients qui viennent nous remettre le médicament vraiment qu'ils ne supportent plus.
Aujourd'hui, elle salue les avancées constatées dans le traitement. D'une dizaine de comprimés, actuellement, elle prend un comprimé par jour.
Mais Dieu merci, aujourd'hui, grâce à l'implication des médecins et du gouvernement malien, je prends mon antirétroviral chaque soir pour coucher un comprimé par jour. Je ne dis pas tout, mais presque tous les patients séropositifs prennent un comprimé par jour maintenant.
Cependant, l'abandon ou l'oubli des traitements donne plus d'espoir au virus de se répandre dans l'organisme, expliquent les médecins. Cet abandon arrive généralement quand les patients constatent qu'ils recouvrent la santé, ajoute-t-il. Al-Mustapha Maïga, chef de service département biologie médicale à l'hôpital Gabriel Touré.
Et donc, plus on prend le traitement, plus le virus ne pourra plus se multiplier dans l'organisme. Et c'est ce qui arrive souvent quand les gens se sentent mieux. Ils pensent qu'ils n'ont plus le VIH et ils vont arrêter de prendre les médicaments. Malheureusement, quand on arrête de prendre les médicaments, le virus il va ressortir de son cachot et il va recommencer à faire diminuer les cellules du système immunitaire et on va retomber malade. On va retomber très gravement malade, plus fort que dans les premiers cas.
Docteur Maïga invite les porteurs du virus au respect du calendrier médical, en attendant d'autres traitements plus efficaces dans les jours à venir. Selon lui, prendre des comprimés tous les jours reste la seule clé du succès contre la maladie.